Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, on se réveille en musique dans les petits matins de France Culture. Et aujourd'hui, chanson française au programme avec Maxime Le Forestier. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de son album qui vient tout juste de sortir. Bonjour Maxime Le Forestier, c'est un honneur de vous avoir ce matin.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous.
Tout un album sur les temps modernes, mais sans les artifices du nouveau monde. Un disque dépouillé, intime, libre, juste avec une guitare. Mais quelle guitare !
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Celle que j'ai vue, c'était pas la plus belle, mais c'est celle qui m'a plu. Je suis sorti avec elle dans la rue, les gens n'avaient plus le même regard. On est pas le même piéton quand on porte une guitare. De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus chère, mais c'est celle qui m'a plu et c'était la première. Comment la faire sonner, on verra ça plus tard. On va tout faire péter quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare. On n'imagine même pas qu'on aura du plaisir à faire saigner nos doigts pour les faire obéir. Qu'elle finit son musée ou en haut d'une armoire. On a tout à rêver quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare.
Avec une guitare, c'est le titre d'un des morceaux de votre dernier album, Maxime Le Forestier. Alors, je ne sais pas si on doit commencer cet entretien par, par les dates anniversaires, si vous voulez dire bon anniversaire.
Merci.
En 1969, vous avez fait paraître vos premiers 45 tours.
Un peu avant même. Oui, mes premiers 45 tours tout seul, oui, c'est vrai.
Tout seul.
Avant, on avait fait deux 45 tours avec ma sœur Catherine.
Ouais.
Ah oui, là, c'est vrai, j'étais au service militaire et...
20 ans. Vous aviez 20 ans, ouais. L'année où on a marché sur la Lune, l'année de Woodstock, l'année érotique.
Oui.
Et vous aviez déjà une guitare, bien sûr.
La guitare, j'ai acheté, j'avais 14 ans.
Racontez-nous cette histoire.
Dans ma famille, à cause de grâce à ma sœur Anne, qui est une musicienne classique, on n'écoutait pas de chansons du tout. Et notre musique, c'était quelque chose de sérieux. On travaillait 5 heures par jour l'instrument et 2 heures par jour la théorie et les études en plus. C'était assez...
C'est la corvée, non ?
Oui. Donc, quand je suis arrivé en sixième, à l'entrée en sixième, soit je faisais comme mes sœurs, c'est-à-dire je travaillais comme une brute et j'essayais d'entrer au conservatoire, soit je faisais autrement, et j'ai choisi de faire autrement par flemme. Je suis rentré au collège et j'ai fait du latin et tout ça, et du chant choral, parce que c'était un collège de curés. Et puis à 14 ans, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, non seulement je vais m'acheter une guitare, ce qui n'était pas un instrument très populaire dans la maison, mais en plus je vais apprendre tout seul, sans prof et sans rien. Donc je suis allé place de la Bastille dans un magasin qui vendait des guitares, j'en ai choisi une, je suis sorti, je suis rentré dans le magasin d'à côté qui vendait les partitions. J'ai dit avec mon langage de classicos, qu'est-ce que vous avez comme littérature pour voix et guitare? Et le mec m'a vendu 4 chansons de Brassens et ma vie a changé.
Voilà, Brassens qui va vous accompagner toute votre vie, puisque vous avez même décidé de reprendre Brassens. Mais à cette époque-là, quand vous aviez 14 ans et quand vous aviez cette nouvelle guitare, qu'est-ce que vous faisiez? Vous essayiez de reprendre des airs qui passaient à la radio?
Ah non, j'écoutais pas la radio.
Ah, rien?
Non, j'ai pris les partitions, je les ai lues, je les ai déchiffrées et je les ai jouées. J'avais fait du violon, hein, donc j'avais une main gauche qui était quand même relativement obéissante. Et je savais lire, donc ça suffisait. Moi, c'est pour ça que j'imite pas Brassens quand je le chante, parce que je l'ai lu avant de l'entendre.
Mais je suppose que si vous vouliez vous échapper du monde de la musique classique, de votre famille, c'était pour faire d'autres compositions, d'autres musiques. Comment vous
avez... Je savais pas, j'imaginais même pas que j'allais composer un jour. Non, je voulais apprendre à jouer de la guitare, apprendre tout seul, et comme j'avais une bonne voix, parce que j'avais aimé, enfin tout allait bien. Mais ceci dit, ce mec qui m'a vendu ces 4 partitions de Brassens, s'il m'avait vendu 4 partitions de Claude François, j'aurais pas eu la même vie. C'est aussi la rencontre avec Brassens qui a fait tout ça.
Donc il a compté dès le début?
Dès le départ.
Première chanson, premier texte, premier refrain, premier pas dans la variété française, pour aller très vite, Maxime Le Forestier.
Oui, 16 ans. 16 ans, je me suis fait virer du lycée. Et on faisait un duo avec ma sœur Catherine. On a fait le tour des cabarets de la rive gauche. On a eu de la chance parce qu'on a vite rencontré Moustaki, qui était juste connu pour avoir écrit Milord pour Piaf. Mais Reggiani n'avait pas encore repris toutes ses chansons merveilleuses, Ma Liberté. Et donc, il nous a donné ses chansons. Toutes ces belles chansons. Et pendant un an, on a eu un tour de chant de rêve. Et puis, bon, après, Reggiani a enregistré son album Moustaki. Et là, on est devenu immédiatement, qui sait, ces deux petits cons qui reprennent du Reggiani. Et donc, on a dû se mettre à écrire.
Comment vous voyez cette époque avec le recul, Maxime Le Forestier? Plutôt de la nostalgie, des regrets?
Non, j'ai pas de nostalgie. La nostalgie, je l'aime quand elle est chantée par Souchon. Mais je n'aime pas en avoir. Je trouve que c'est chaque période de sa vie a son lot de joie et de tristesse.
Et pourtant, dans cet album, le dernier, celui qui vient tout juste de sortir, Paraître ou ne pas être, les musiques peuvent être joyeuses, les refrains contagieux, mais les textes, ils sont plutôt profonds. Ça tourne autour du temps qui passe.
Ah ben forcément, quand on a passé un certain nombre de caps, c'est pas qu'on regarde en arrière, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui me reste.
Et pourtant vous avez fait ce disque, comme on le faisait à l'époque des années 70, avec une totale liberté, on entend les instruments, ce n'est pas surproduit, on n'a pas l'impression que vous soyez nombreux autour à jouer dans ce disque.
La base, c'est 4 musiciens, donc ouais. 2 guitares, Manu Galvin et Arthur, mon fils. Un percussionniste s'appelle Sébastien Quesada, que Caratini m'avait présenté. C'est un spécialiste des tambours bata, du vaudou, qu'il enseigne d'ailleurs au conservatoire de Gennevilliers. Mais bon, quand il joue avec moi, de temps en temps, il glisse une citation de tambour bata, mais c'est assez rare. Et un super contrebassiste que j'adore, qui est un type issu du classique, qui s'appelle Étienne Roumanet. Donc toutes les chansons, on les a enregistrées comme ça, sauf Paraître ou ne pas être. C'est le compositeur qui est venu jouer, Baptiste Trottignon. Et puis après, on a rajouté les chœurs et le violon dans Les Filles amoureuses, Fiona Mombay.
Mais diriez-vous, Maxime Le Forestier, que vous avez fait cet album comme vous avez fignolé votre premier album, Mon frère ou San Francisco? C'est de la même manière?
Pas tout à fait, parce que ça se rapprocherait plus du troisième de caricature, le disque avec les dessins de Cabu, où là, Caratini, le Doirin et moi, on s'est mis en studio, et je crois, 3 heures plus tard, le disque était fait. Là, c'est 4 musiciens, un chanteur en studio. Je chantais, chaque fois qu'il y en avait un qui jouait, je chantais avec lui, parce que les musiciens jouent pas pareil quand le chanteur chante. Et puis, quand on était content, ben, on passait à la suivante.
Et les paroles? Les paroles étaient écrites bien
paroles,
avant
ou... Les paroles, où j'ai commencé par ça, oui, bien sûr. Je me suis retiré à la campagne pendant 1 an et demi, pas par souci de retour à la terre, mais parce qu'on construisait une maison à côté de chez moi, à Paris, et que j'étais pas prêt pour la musique urbaine. Donc voilà, j'ai écrit un certain nombre de textes. J'ai toujours des musiques dans la tête quand j'écris des textes, mais quelquefois elles me plaisent pas. Donc quand elles me plaisent pas, je propose le texte à un compositeur sans lui dire que j'ai écrit quelque chose. Là, il y a Manu Galvin qui en a fait 2, Julien Clerc qui en a fait 1, Baptiste Trottignon qui en a fait 1, Arthur qui en a fait 1. Ça, c'est pour les musiques. Ouais.
Parlez-nous de La Vieille Dame. Maxime Le Forestier.
La Vieille Dame, c'est une chanson que j'ai écrite pendant la campagne présidentielle.
La dernière, je suppose.
La dernière, oui, que j'ai tenu à enregistrer avant le premier tour pour voir si j'avais raison.
Et ça parle de quoi?
Ben, c'est une, on dirait une vieille dame. Ça parle de la France, l'ankylose. Ça parle d'une vieille dame qui a été riche, mais qu'il l'est moins, mais qui s'en est pas aperçu, qui a pas adapté son niveau de vie à sa nouvelle état. Maintenant, c'est plus un empire colonial, hein, mais c'est toujours, y a toujours le doute. Est-ce que je parle d'une vieille dame ou est-ce que je parle de la France?
On la connaît fine, fière, révolutionnaire, quand elle allait les seins à l'air, terrasser l'oppresseur. Aujourd'hui, morose en kilos, elle veut plus changer les choses. Elle a peur, peur de l'étranger, de l'étrange, peur de tout ce qui la dérange, peur des temps nouveaux. Peur qu'un voyou la déleste, des 3 bijoux qui lui restent. On dirait une vieille dame. On l'a connue chic, chère, l'hiver à la montagne et l'été à la mer. Elle a eu des misères, elle a eu des malheurs. Aujourd'hui débine, plus d'usine, remisez la limousine. Le chauffeur. Alors elle regrette le passé, elle sait pas trop lequel c'est, le passé d'avant. Il y a des trous dans son histoire, il y a des trous dans sa mémoire. On dirait une vieille dame. Une vieille dame. Aurait-elle, cette vieille personne, des talents cachés? Et tous les galants qui sonnent à sa porte, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Elle en laisse entrer un, elle les déteste tous, celui-là un peu moins. Au début tout va bien, suffit d'un mot qui blesse. Alors elle l'engueule, fait la gueule, dit qu'elle veut rester toute seule. Manifeste. Est-ce que c'est le pire des salauds ou bien juste un gigolo? Elle sait plus vraiment. C'est son éternelle jeunesse, la folie de temps en temps. Fait tanguer la vieille dame. Fait tanguer la vieille.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Maxime Le Forestier ce matin. Et La Vieille Dame est un extrait de votre dernier album, Paraître ou ne pas être. C'est aussi quand même une manière aussi de voir le monde d'aujourd'hui. Vous qui avez tant marqué ces années où il était bon d'être de gauche, progressiste. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les idéaux de votre jeunesse, Maxime Le Forestier, malmené, méprisé, moqué des fois, vous vous dites quoi ? Qu'on vit une sale période, que les temps ont drôlement bien changé
ou... Il n'y a pas que ça, non. Je me souviens que quand je chantais comme un arbre dans la ville, on se moquait des pacifistes bêlants et des écologistes. Maintenant, il y a des ministères pour ça et il y a des réunions internationales. Il y a eu du progrès quand même. C'est vrai qu'on voulait tous changer le monde et le monde a changé, pas tout à fait dans le sens qu'on voulait. Mais bon, ça rend philosophe.
Donc pas de regret de ce côté-là.
Ah non, pas de regret, non, non, non. Non, bah, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire, hein, tout seul.
Mais il y a une forme d'engagement dans votre démarche artistique, Maxime Le Forestier, où c'est juste le public qui vous a associé, peut-être un peu trop vite, partir d'une chanson, à partir d'un hymne.
Non, il y a une chose qui a changé, qui est très importante, c'est les médias. Quand j'ai débuté, donc début des années 70, les médias étaient vraiment muselés. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne pouvaient passer que par des chansons ou des histoires drôles ou des choses comme ça qui ne seraient jamais passées dans cette maison, ni ailleurs, d'ailleurs. Ça a bougé.
Donc vous êtes un subversif tranquille, vous avez utilisé la chanson pour faire passer des messages.
Tout à fait.
Par exemple, dites-nous ça, Maxime Le Forestier.
Je me souviens d'une chanson qui s'appelait « Entre 14 et 40 ans ». Il y avait des étudiants qui allaient sur les 73... Des étudiants qui allaient sur les pelouses du Jardin du Luxembourg pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et ça ne plaisait pas aux sénateurs qui ont donc fermé le jardin. Mais ils ne pouvaient pas fermer le jardin aux enfants ni aux vieillards. Donc ils ont fermé le jardin aux gens qui avaient entre 14 et 40 ans. On vous demandait vos papiers avant d'entrer dans le Jardin du Luxembourg. Ça, aucun journal n'en a parlé.
Et vous en avez fait une chanson.
Oui, oui, c'était drôle.
Et la chanson était explicite ?
Ah oui, tout à fait, oui.
Vous avez chanté avant tout le monde la situation des sans-papiers, des réfugiés, des exilés. Maxime Le Forestier.
Vous parlez de Nez quelque part.
Ben oui, et ça a été un tube commercial.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'était pas comme ça que je l'avais prise. Au départ, c'était mon fils Philippe, mon fils aîné, avait... 5-6 ans, il était à l'école primaire. Et il était dans une école où il y avait 18 nationalités différentes. Et son meilleur pote, il s'était Francis, et il était vietnamien, fils de boat people, qui est des gens qui travaillaient dans le quartier, dans des restaurants. Mais il était né en France, Francis. Et oui, on est en 86. Il y a eu ce qu'on appelle les lois Pasqua, qui voulaient qu'un enfant... de parents étrangers nés en France ne soit pas français tout de suite, qui demande sa nationalité à 18 ans, et on la lui donnait ou on la lui donnait pas, selon ce qu'il avait fait. Donc je m'étais dit, c'est quand même bizarre, ces deux gamins qui jouent ensemble dans la cour, qui vont avoir les mêmes profs, la même éducation, les mêmes filles, ils vont peut-être voler le même scooter à 15 ans. Il y en a un qui se fera engueuler, soit par un flic, soit par un juge, soit par son père. Et puis un autre qui va se faire virer de son pays natal, qui est quand même, c'était chez les Grecs, c'était pire que la mort. Donc là est-ce que les gens naissent égaux en droit ? Ça m'est arrivé tout de suite.
À l'époque, ça avait créé un tollé. Aujourd'hui, ce genre de débat n'est plus d'actualité.
Bon, ça peut le redevenir. Ça peut le redevenir. La montée des nationalismes, parce que c'est mondial. Hein. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des gens qui veulent fermer les frontières. Donc ça reviendra. Ce qui est intéressant dans cette chanson, enfin pour moi, c'est qu'elle a été beaucoup traduite, mais toujours traduite dans des langues de pays pauvres. Elle a été traduite en malgache, en bambara, en kabyle, et bon, en espagnol aussi. Mais elle n'a pas été traduite en anglais.
Maxime Le Forestier, c'est vrai que depuis le début, on vous associe à la nature.
À cause de mon nom, ça.
Oui, alors que vous êtes un Parisien né à Paris.
Ah, je suis né à Paris, je prends mon passeport pour passer le périph, et oui, tout, j'ai toutes les caractéristiques de l'horrible Parisien.
Et cet album, il a été enregistré à Paris?
Il a été enregistré à Suresnes, oui, je devais prendre mon passeport pour aller au studio.
Paraître ou ne pas être, c'est une manière de parler de l'époque d'aujourd'hui?
Pas seulement, mais moi j'aime bien poser des questions dans les chansons. Est-ce que les gens naissent, c'est gourmand? Enfin, je trouve que la forme interrogative est excellente pour les refrains. Bon, évidemment, ça se voit depuis Andy Warhol, quoi, depuis le quart d'heure de gloire que tout le monde cherche. Et là, ça devient particulièrement exagéré et un peu pathétique. Les gendarmes à la campagne, ils m'ont raconté qu'ils ont coincé une bande de cambrioleurs parce qu'ils se faisaient des selfies sur les lieux de leur cambriolage et ils les publiaient sur Instagram. Ça va jusque-là, quand même.
Et vous-même, ça vous a manqué ces quelques années où vous n'étiez pas au-devant de la scène ou...
Non, j'avais d'autres problèmes d'une autre sorte et les problèmes professionnels étaient au second plan.
Chanter, retrouver la scène, ça va être pour la rentrée, Maxime Le Forestier.
Oui, je démarre fin septembre, et puis, j'ai pas le détail de la tournée, mais je sais que 14, 15, 16 novembre, je serai au Casino de Paris.
Et là, comment on prépare une tournée? Parce que ces dates parisiennes annoncent une tournée.
Ah bah oui, bien sûr. Ben, on fait trois listes. Une liste des chansons incontournables que les gens veulent entendre, et comme ils viennent pas, ils achètent pas des billets de concert pour se faire fouetter.
C'est quoi, San Francisco, mon frère, voilà, la maison bleue, être voilà, donné quelque
comment
part.
Comment on va les habiller, les colorer, où on va les mettre.
Non mais rassurez-moi, dites-moi que vous prenez toujours un plaisir fou à aller chanter sur scène, ces chansons.
Toujours, oui. Toujours. Une fois, j'ai voulu virer mon frère, parce qu'il y avait une suite harmonique dans le refrain qui me plaisait plus. Et ma femme m'a dit, si tu fais ça, je ne viens pas. Donc, j'ai appelé sa barre, je lui ai dit, trouve-moi une solution pour qu'elle me plaise à nouveau. Et il a trouvé. Donc, une première liste avec les incontournables, la liste des nouvelles, et puis la liste des intermédiaires, des chansons que les gens connaissent moins, mais...
Et que vous aimez tout particulièrement.
Ou que j'aimerais ressusciter. Par exemple, j'ai passé un temps fou à essayer d'écrire une chanson pour Cabu. Parce que quand j'ai appris sa mort, j'ai vraiment pleuré. C'était un ami, c'était un... Puis en plus, il savait dessiner, moi je sais pas. Donc quand j'avais une idée de dessin, je l'appelais, et il me faisait mon dessin. Et j'ai rien trouvé, et puis à un moment, c'est mon fils qui m'a dit « Mais attends, tu l'as écrite il y a 40 ans, cette chanson, elle s'appelle Caricature. » Et c'est vrai que j'avais écrit ça pour Cabu, vivant. Mais la chanson se termine quand même... Notre vie se passe au crayon, notre vie s'efface au canon.
Dernier soleil avant l'hiver, j'aurais bronzé nu comme un ver, avec une créature de rêve, j'aurais refait Adam et Ève. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier, le dernier. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier, la dernière fois qu'on s'est parlé, quand on a bu un dernier verre, sans hésiter, j'aurais passé à le vider la nuit entière. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier, si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier.
Vous êtes en forme, Maxime Le Forestier. malgré la gravité du propos dans cette chanson, Dernier Soleil.
Je l'ai adouci beaucoup. Hein, le texte sur lequel Julien a fait la musique, il était beaucoup plus triste que ça. Non, ça arrive hein, de penser à la mort, bien sûr.
Vous êtes un grand lecteur, Maxime Forestier ?
Non, non.
Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous donne des idées ? Ce que vous voyez ?
Mes rêveries, oui, oui. Je suis capable de...
Vous vous souvenez de vos rêves ? Quelle chance !
Mes rêves éveillés. C'est Souchon qui avait dit un jour, des gens ont du mal à comprendre qu'on puisse passer 3 jours à regarder une porte. Et c'est vrai qu'en regardant un arbre ou une porte ou n'importe quoi, il arrive des trucs et puis de temps en temps je note.
Ça a été un plaisir de vous avoir, Maxime Le Forestier, ce matin. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de votre dernier album. Il vient tout juste de sortir.
Merci à vous.
Vous pouvez maintenant réécouter cette émission ou partager le podcast disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Maël Ray et Corinne Amard, réalisée par Lionel Quentin avec ce matin à la technique, Pierre Monteil. On se retrouve demain, bonne journée sur France Culture.